Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un autre gros mensonge de la Bible, celui du péché originel. Épisode 8, le mensonge du péché originel. Chaque époque réécrit Dieu à son image, mais toutes gardent une chose en commun. La peur. Dès le premier chapitre de cette série, nous avons traversé les âges du mensonge sacré. Nous avons vu le Dieu créateur inventer un monde d'obéissance, le déluge noyer la différence, le patriarcat ériger la domination en loi divine, l'esclavage se sanctifier au nom du ciel, la terre promise devenir justification des conquêtes, le peuple élu s'arroger le droit d'exclure et le diable inventer servir d'alibi à toutes les cruautés. Mais il existe, plus ancien et plus perfide que tous ces récits, un mensonge originel au sens littéral. Celui qui a inventé la faute de naître. Avant même qu'il y ait des empires à bénir, des esclaves à dompter, des peuples à diviser, il fallait poser la première pierre de l'édifice de la soumission, la culpabilité universelle. Le péché originel est le mensonge parfait, car il s'attaque non pas à l'esprit adulte, mais à l'innocence même de la naissance. Il ne condamne pas ce que l'homme fait, mais ce qu'il est. Il transforme la vie en dette, l'existence en faute et la liberté en transgression. Ainsi, dès le premier cri d'un nouveau-né, le religieux murmure « Tu es déjà fautif ». Aucun tribunal, aucun crime, aucune victime, et pourtant, une condamnation éternelle. C'est le triomphe absolu de la peur sur la conscience. Et pour donner corps à cette culpabilité collective, le récit a besoin d'un symbole, une femme. Ève, l'initiatrice, la curieuse, la désobéissante, devient l'ennemi. C'est par elle, dit-on, que le mal est entré dans le monde. C'est par elle que Dieu s'est fâché, que l'homme a souffert, que la mort a régné. Ainsi naît la plus grande injustice spirituelle de tous les temps. Un Dieu qui condamne l'humanité entière parce qu'une femme a voulu comprendre. Mais ce récit, sous sa façade morale, cache un dessein politique. Car une humanité qui se croit coupable est une humanité docile. Une femme rendue coupable devient plus facile à soumettre. Et un peuple, convaincu qu'il a besoin d'un sauveur, devient dépendant d'une église. Le mensonge du péché original n'est pas seulement religieux, il est systémique. C'est le programme psychologique le plus efficace que le pouvoir n'ait jamais conçu. Il apprend à l'homme à s'agenouiller avant même d'avoir marché. Il crée des millions de coupables pour mieux vendre la rédemption. C'est ce mensonge, enraciné dans les pages de la Genèse, qui a permis de bâtir l'empire du pardon, la mécanique du salut et la servitude des consciences. Et c'est à lui, à cette illusion première, que nous consacrons cet épisode, le mensonge du péché original, ou comment la connaissance fut condamnée pour que la foi puisse régner. La faute inventée. Le récit est connu. Un jardin, un fruit, un serpent, un interdit. Deux êtres naïfs, un ordre arbitraire et une chute qui n'en est pas une. Car l'acte d'Ève et d'Adam n'est pas une désobéissance. C'est une naissance à la conscience. En goûtant aux fruits, ils ne commettent pas un crime. Ils découvrent la connaissance, le discernement entre le bien et le mal. Autrement dit, ils deviennent humains. Mais la religion, au lieu d'y voir un éveil, y a vu une trahison. Dieu aurait préféré des enfants soumis à des êtres éveillés. Alors, on transforma la curiosité en faute, la liberté en transgression et la femme en coupable. Le premier geste d'intelligence fut rebaptisé péché. Ce fut le commencement d'un monde où la morale se fonde sur la peur plutôt que sur la vérité. La fabrication de la culpabilité. Avec ce mythe, l'homme naît déjà coupable. Avant d'avoir agi, il a déjà fauté. Avant d'avoir choisi, il a déjà trahi. Chaque cri de nouveau-né dans la théologie chrétienne est un rappel de cette chute. Cette idée monstrueuse a permis aux églises d'enfermer les âmes dès le berceau. Car si l'homme est pécheur par nature, il lui faut un intermédiaire pour être sauvé. Et cet intermédiaire, c'est l'Église. Ainsi, le mythe devient machine. Il crée la blessure et vend le remède. Il invente le poison et prétend t'offrir le pardon. Le baptême devient le premier lavage, la première purification, la première adhésion au système de la faute. Et toute une vie, l'homme courbe l'échine sous le poids d'une faute qu'il n'a jamais commise. Le rôle de la femme, la coupable éternelle. Le péché originel, c'est aussi le mensonge fondateur du patriarcat religieux. Ève, symbole du savoir et du désir, devient la cause de la chute. C'est à travers elle que le mal entre dans le monde. C'est par elle que la douleur, la souffrance et la mort sont censées avoir été introduites. Ainsi, la femme porte, dans la Bible, une condamnation double. Celle d'avoir osé penser et celle d'avoir aimé la vie. Car ce fruit, c'est la connaissance, c'est la liberté, c'est l'autonomie du jugement. En y goûtant, elle a dit non à l'obéissance aveugle. Mais les hommes de foi, incapables de supporter cette révolte, ont fait d'elle la première criminelle de l'histoire. Depuis, les femmes portent ce stigmate. Tentatrice, faible, dangereuse. Et de cette fiction sont nés des millénaires de soumission. Le péché originel n'a pas puni la désobéissance, il a puni la liberté féminine. L'instrument du salut marchand. Avec la faute vient le besoin de pardon, et avec le pardon vient le commerce du salut. Les prêtres et les pasteurs ont trouvé dans ce récit une mine d'or spirituelle. Ils ont bâti un empire sur la culpabilité. Vous êtes nés pécheurs, mais nous pouvons vous purifier. Tel fut le contrat implicite de toute religion du salut. Des siècles durant, on a vendu des indulgences, des confessions, des messes, des sacrifices, tout cela pour effacer une faute imaginaire. Ce n'est plus Dieu qui juge, c'est l'Église qui facture. Et plus la faute est grande, plus la peur est rentable. Sans le péché originel, le Christ n'aurait pas besoin de mourir. Sans la culpabilité, les temples n'auraient plus d'utilité. Ce mythe est donc le cœur économique de la foi. Il transforme la honte en monnaie et la soumission en vertu. Le sens véritable de la chute. Mais si l'on lit autrement, si l'on lit librement, on découvre un autre sens. Le fruit défendu n'était pas poison, il était connaissance. La chute n'était pas malédiction, elle était ascension. C'est le moment où l'homme quitte l'animalité pour entrer dans la conscience de lui-même. En ce sens, Ève est la première philosophe. Elle ose questionner, désirer, transgresser, rien que pour comprendre. C'est elle qui fait de l'humanité un être pensant. Et Dieu, dans ce récit, n'est plus le créateur bienveillant, mais le gardien jaloux d'un ordre statique. Ce qu'il punit, ce n'est pas le mal, c'est la liberté. Ce qu'il chasse du jardin, ce n'est pas le pécheur, c'est le penseur. Ainsi, le péché originel est en réalité la naissance de la conscience. Et tout le reste n'est qu'un récit d'asservissement spirituel. Le mensonge du péché originel n'a pas seulement abîmé la foi, il a façonné la psychologie du monde occidental. Il a appris à l'homme à douter de lui-même avant même de douter de Dieu. Il fait du désir une faute, du plaisir une honte, de la pensée un risque. Depuis des millénaires, l'humanité porte en elle cette cicatrice invisible, la conviction d'être impur. Des millions d'enfants ont grandi dans la peur du mal qu'ils n'ont pas commis. Des millions de femmes ont été jugées pour un fruit qu'elles n'ont pas cueilli. Et des millions d'hommes se sont confessés d'être simplement humains. Sous le voile du sacré, ce mythe a érigé une société de repentis, où le bonheur se monnaie et où le pardon s'achète. La foi n'a plus été une recherche du vrai, mais une quête d'absolution. Les temples sont devenus des tribunaux, les prêtres et les pasteurs des juges, et Dieu un comptable du salut. Pourtant, si l'on relit le récit avec un œil libre, une autre vérité apparaît. Ève n'a pas chuté. Elle s'est élevée. Elle n'a pas trahi Dieu. Elle a trahi l'ignorance. Son geste n'est pas une faute, mais un acte de lucidité. En goûtant au fruit de la connaissance, elle a introduit dans le monde ce que le divin refusait, la conscience du bien et du mal, c'est-à-dire la liberté morale. Ce que les prêtres et les pasteurs ont appelé péché, c'est en réalité la naissance de la pensée. Ce que la religion a nommé chute, c'est l'ascension de l'humanité hors de la servitude. Et si Dieu a chassé l'homme du paradis, ce n'est pas pour le punir, mais parce que le paradis, peut-être, n'était plus digne de lui. Car la véritable grandeur de l'homme commence là où s'arrête l'obéissance aveugle. Alors oui, Ève a tendu la main. Oui, elle a désobéi. Mais sans ce geste, nous serions encore nus d'esprit dans le jardin de l'ignorance. C'est par elle que l'humanité s'est éveillée et c'est à elle que nous devons notre capacité à dire non. Le mensonge du péché originel nous a fait croire que la liberté était une faute. La vérité, c'est qu'elle fut notre première victoire. Et chaque fois qu'un être humain ose penser, comprendre, aimer sans peur, Ève renaît dans la lumière. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être déculpabilisé. Ce n'est pas le sang d'un Dieu qui libère, c'est la connaissance d'un fouet. Et si aujourd'hui, l'humanité retrouve le courage d'aimer sans remords, de penser sans confession, alors le jardin perdu redeviendra ce qu'il aurait toujours dû être. Non pas un lieu d'interdit, mais plutôt un lieu de conscience. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode pour questionner un autre mensonge de la Bible qui façonne encore nos mentalités, souvent sans que nous le sachions.